franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, Didier Raoult, chercheur en microbiologie, nous rassurait grâce à la science.
Quand je précise que je ne suis pas religieux, c'est parce que je ne suis pas idolâtre. Je n'aime pas les idoles. Donc je ne crois pas, bon, pas plus aux idoles scientifiques qu'à toutes les autres idoles. Et donc, au moment du bicentenaire de sa naissance, il y a eu une telle idolâtrie, mais y compris dans les meilleurs journaux, dans Science, dans Nature, tout le monde dit « Oh, le dieu Darwin !» Que si vous voulez, j'ai commencé à être irrité et j'ai fait... que je n'avais pas fait avant, je l'ai lu. Et c'est un tissu d'anérie, c'est un tissu de bêtises. Et en particulier, moi je conseille à n'importe qui de regarder sur Google, alors que c'est devenu une espèce d'idole de la gauche contre la chrétienté ou la Bible traditionnelle. Si vous lisez L'origine de l'homme, vous êtes sidéré. Darwin, qui était une ignorance terrible, pensait que les Africains ne pouvaient pas se reproduire avec les Européens, ou que s'ils se reproduisaient, ça donnerait des mules, c'est-à-dire des animaux hybrides incapables de se reproduire entre eux. C'est d'une ignorance qui est tellement extrême. Moi, je vous suggère de lire ça. Une fois qu'on a lu ça, on ne peut plus sacraliser ça. Qu'il ait été une étape dans la pensée, c'est incontestable. Mais il faut désacraliser tout ça. On faisait de la science, on ne fait pas de la religion.
Voilà. Bon, sauf que c'est totalement politiquement incorrect de parler de Darwin en ces termes-là aujourd'hui, parce que c'est une idole à laquelle on a du mal à toucher quand même, hein.
Oui, si vous voulez, c'est une vraie question. C'est une question que mes proches m'ont posée beaucoup. Il y a quelqu'un qui a posé cette question, qui a pris malheureusement cette question de manière inverse de la mienne, qui est Bruno Latour, qui avait fait la même chose, un livre sur Pasteur, et qui ensuite a fait un espèce d'acte de contrition en disant on n'a plus le droit de dire que la science est culturelle parce que ça donne des armes aux gens qui sont anti-scientifiques.
Ouais. Et vous vous dites non, faut le faire quand même.
Bien sûr, notre rôle, nous, ça n'est pas de défendre la science comme religion, mais la science comme fait. C'est-à-dire comme, personne ne peut contester qu'on soigne les gens. Les OGM, ça fait 40 ans qu'on soigne le diabète avec des OGM. Enfin, il faut revenir sur Terre. Et de toute manière, quand on ment aux gens, ils finissent par le savoir. Et d'ailleurs, le plus grand mouvement scientifique, qui est complètement l'inverse de ce que disait Latour, actuellement, c'est un énorme moment scientifique qui est celui de la remise en cause de la reproductibilité d'un certain nombre de phénomènes scientifiques. Et ce que l'on voit, c'est que pour des choses comme le cancer, par exemple. On est en train de regarder les 50 papiers les plus célèbres du cancer. Il y a probablement la moitié qui sont faux, qui ne sont pas reproductibles. Donc, c'est comme ça.
Ouais, ça dit quoi de la science, ça, au fond?
Ça dit que ce qu'en disait Latour, qui est extrêmement intelligent, c'est qu'une part de la science est factuelle et une part de la science est une science culturelle. Et il y a, ce que ça dit, ça, c'est qu'il y a des phénomènes scientifiques qui n'existent que dans un laboratoire. Donc ça n'est pas de la science généralisable, c'est les conditions d'observation et de réalisation ont permis dans un laboratoire de faire quelque chose qui n'est pas généralisable.
Mardi, Véronique Leblon, chef de service d'hématologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et Thierry Lhermitte nous parlaient de la leucémie.
Ce qui m'a fasciné hier, c'était d'apprendre que quand on faisait une allogreffe, la greffe avec la moelle de quelqu'un d'autre, on avait supprimé le système immunitaire du patient et que donc c'était le greffon lui-même qui attaquait le patient.
Exactement, voilà. Parce que quand on injecte de la moelle osseuse, on va injecter aussi des cellules immunocompétentes, en particulier les lymphocytes T. Et ces lymphocytes T, quand ils vont arriver chez le receveur, ils ne vont pas reconnaître le receveur comme soi. Donc ils vont l'attaquer. Et le patient est trop immunodéprimé pour rejeter la greffe. En fait, la greffe rejette le patient. Et ça peut donner des effets secondaires parfois assez sévères.
Et vous nous parliez des chimères, justement.
Oui. Alors, la chimère, c'est un mot grec. Hein. Vous savez, les chimères, c'était des bêtes avec des têtes de serpent.
C'est ça, un mélange.
Et donc, en fait, être une chimère en médecine, c'est d'avoir du soi et du non-soi.
Ouais.
Et donc, les deux exemples de chimères en médecine, c'est la grossesse. Voilà. Et puis, c'est la greffe de moelle, parce qu'on va avoir le greffon qui va se développer chez soi, alors que c'est pas vous, et qui va être toléré à un moment ou à un autre, et on va devenir donc une chimère.
Ouais. C'est les deux seuls cas.
Il y en a peut-être d'autres, mais je connais que ceux-là.
Bon, c'est déjà pas si mal, en tout cas pour nous épater. Ludovic nous pose cette question. Est-ce que de par ces mécanismes, la leucémie est un cancer comme un autre? Et pourquoi l'appeler leucémie et pas cancer de la moelle osseuse à la manière des autres cancers du poumon, de la gorge, du côlon, etc.?
Parce que le mot leucémie, en fait, ça veut dire qu'il y a des cellules qui passent dans le sang qui sont tumorales, voilà, et qui sont pas normales. Et le mot leucémie vient, en fait, on a vu ça, on regardait du sang et on voit des cellules qui sont soit en nombre très important, soit qui sont des cellules qui devraient pas être dans le sang circulant. Et c'est donc la leucémogénèse, c'est la leucémie, c'est un mot grec. Et donc le cancer, c'est pas du tout ça. Le cancer, c'est une tumeur du sein, c'est une tumeur du côlon, mais quand on regarde le sang des patients, il n'y a rien qui se passe dedans. Donc c'est pour ça que ce sont deux choses différentes. Et la leucémie est toujours diffuse, puisque c'est dans tous les os, alors qu'un cancer, quand il y a une atteinte osseuse, on parle de métastase. Donc c'est pas du tout le même principe.
Il y a beaucoup de questions sur l'aspect héréditaire justement de la leucémie. Sylvie demande, est-ce que la leucémie chronique peut être héréditaire?
Alors, les leucémies chroniques, il y a quelques cas qui peuvent être... il y a des formes familiales qui sont très rares, mais qui existent, et avec probablement très compliqué à expliquer en termes de raisons et d'oncogénèse. Mais ça reste quand même très exceptionnel, donc je crois qu'on... voilà, ils vont dire que c'est très très rare.
Ouais. François nous dit, je suis donneur de sang, est-ce que c'est un moyen parmi d'autres pour être dépisté plus tôt?
Non, parce qu'en fait, il doit donner son sang une fois, deux fois par an. On fait une numération éventuellement, mais voilà, entre six mois, on peut faire une maladie XY. Donc je crois qu'il y a quelques maladies du sang qui ont été révélées par chez les donneurs de sang quand ce sont des leucémies chroniques, ouais. Parce qu'elles sont asymptomatiques et donc on peut les voir à ce moment-là. Mais dans les leucémies aiguës, c'est exceptionnel parce que c'est tellement bruyant comme présentation que voilà, c'est quelque chose qui se révèle de façon assez aiguë.
Mais le dépistage se fait par la prise de sang, en
bien
tout
sûr,
cas, pour les leucémies.
La prise de sang peut orienter, mais c'est surtout la prise de moelle osseuse qui fait le diagnostic.
Mercredi, faut-il encore manger de la viande? Avec la sociologue Catherine Rémy qui revenait sur le scandale des abattoirs.
Ce que j'ai observé dans les abattoirs, alors j'y suis allée avec, en ayant lu les textes qui existaient sur cet endroit et j'avais lu la réglementation et selon la réglementation, on doit tuer de manière humanitaire les animaux, c'est-à-dire qu'on les insensibilise. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que dans les textes qui ont été écrits sur les abattoirs pour essayer de réformer cet endroit, il y avait l'idée qu'on allait transformer les ouvriers d'abattoirs en bonnes euthanasistes compatissants. Donc moi, une des questions d'enquête, c'était au fond, est-ce que la compassion pouvait émerger dans un abattoir?
C'est pas le cas.
Hein. Ce n'est pas le cas.
C'est ce que vous dites. Il n'y a pas de compassion de la part des ouvriers pour les animaux.
Mais si on lisait les textes, on pouvait se dire, peut-être qu'apparemment, cette compassion peut émerger dans le dispositif, il y a une réglementation, etc. Et le résultat de mon enquête, c'est que non, la compassion ne peut pas émerger. Et bien au contraire, la compassion bloque l'activité. Parce que j'ai été la témoin d'un moment où un des ouvriers d'abattoir a refusé en fait d'abattre des chevaux qui arrivaient à l'abattoir, qui s'est retourné vers moi et qui m'a dit « ça je ne peux pas le faire parce que moi j'ai des chevaux à la maison et je ne supporte pas et donc je ne le fais pas ». Et ce moment a été très fort parce que du coup, les autres face à lui, les autres ouvriers d'abattoir, se sont radicalisés. Ils ont dit « mais non, nous on le fait ». Et là, il y a la violence qui a émergé, il y a même eu de la provocation, une sorte de plaisir à tuer qui s'est exprimé. Mais ce que moi, ça m'a appris en tant que sociologue, c'est que ce discours compassionnel, lorsqu'il émergeait dans la situation et dans la bouche d'un ouvrier d'abattoir, hein, pas dans la bouche de n'importe qui, de quelqu'un qui a l'habitude, eh bien, ça l'empêchait de continuer à tuer les animaux. Ouais. Donc il y a bien, pour moi, en tout cas, une impossibilité de cette émergence de la compassion.
Le problème de l'étourdissement, parce qu'on a vu également sur les images que les animaux n'étaient pas tous étourdis avant de passer sous le couteau de...
Il faut bien comprendre que les ouvriers d'abattoir sont soumis à des cadences très fortes. Ils veulent aller vite, ils veulent faire bien et vite, et que ce geste d'insensibilisation ralentit l'activité et que très souvent, il ne va pas être bien fait. Ça me permet de dire que, suite au scandale donc des vidéos sur les abattoirs, moi j'ai été un petit peu choquée, c'est le cas de le dire, de la façon dont sur les réseaux sociaux on pouvait parler de ces ouvriers d'abattoirs en les traitant de monstres, de bourreaux, etc. Là, je crois que là, il y a une incompréhension totale de la situation. C'est le dispositif lui-même qui est porteur d'une violence et qui fait que ces personnes vont basculer dans la violence. Ce n'est absolument pas parce qu'elles sont des personnes déviantes.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur le site de La Tête au Carré sur franceinter.fr.